L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taoufik Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, éminent expert en sécurité et en défense. Avec lui, nous allons nous intéresser aux enjeux militaires et géopolitiques de la crise au Proche-Orient et à ses probables répercussions sur la sécurité et la paix dans le monde. Et pendant la pause, nous allons examiner avec Cyril Delattre, analyste géopolitique français, le récent article du président américain Joe Biden publié dans le Washington Post. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Hamas a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec Israël pour instaurer une trêve humanitaire de 4 jours dans la bande de Gaza. Les parties ont convenu de libérer 50 otages israéliens, femmes et enfants de moins de 19 ans, en échange de 150 prisonniers palestiniens. En outre, l'aide humanitaire sera autorisée dans toutes les zones de la bande de Gaza et Israël interrompra complètement les vols au-dessus du sud de l'enclave pendant la durée de la trêve. Ils seront interdits au-dessus du nord de la bande de Gaza pendant 6 heures, de 10 heures du matin à 16 heures. Israël s'est également engagé à ne pas arrêter les Palestiniens de Gaza pendant la durée de la trêve, afin de leur permettre de circuler librement sur la route reliant le nord et le sud de l'enclave. Malgré la trêve, le Hamas a promis de rester en alerte pour défendre le peuple palestinien. La trêve qui, selon les médias israéliens, pourrait débuter jeudi matin, a été annoncée peu après un sommet extraordinaire des BRICS sur le conflit israélo-palestinien. À l'issue de cette réunion, qui s'est tenue le 21 novembre par vidéoconférence, les participants au sommet ont notamment appelé à une trêve humanitaire immédiate au Moyen-Orient et à la libération inconditionnelle des otages. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a ouvert la réunion, a déclaré que la cause première du conflit au Proche-Orient est l'occupation illégitime par Israël du territoire palestinien. Il a néanmoins souligné que le Hamas avait violé les règles internationales en prenant des otages et qu'il devait rendre des comptes. Selon le président sud-africain, il faut déployer en Palestine des forces de l'ONU avec un mandat pour contrôler le cessez-le-feu et la défense des civils. Et la Cour pénale internationale devrait engager des poursuites contre les responsables de crimes de guerre dans ce conflit. Le sommet a réuni non seulement les dirigeants des pays déjà membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, mais aussi les chefs des États qui deviendront membres à part entière de l'association le 1er janvier 2024. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Iran et de l'Éthiopie. Le président russe Vladimir Poutine a souligné dans son discours que les BRICS pourraient jouer un rôle clé dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Il a également évoqué les responsables de l'escalade des tensions dans la région.
Tous ces événements sont en fait la conséquence directe de la volonté des États-Unis de monopoliser les fonctions de médiation dans le règlement israélo-palestinien et de leur blocage des activités du quartet des médiateurs internationaux au Moyen-Orient. L'histoire a ainsi clairement démontré le caractère non viable et contre-productif des tentatives unilatérales de trancher le nœud palestinien. En raison du sabotage des décisions des Nations Unies, qui prévoient clairement la création et la coexistence pacifique des deux États indépendants et souverains, Israël et la Palestine, plus d'une génération de Palestiniens a été élevée dans une atmosphère d'injustice à l'égard de leur peuple, et les Israéliens ne peuvent pas garantir pleinement la sécurité de leur État. La tâche la plus urgente est de parvenir à une trêve véritablement durable et à long terme. Il est important, je suis d'accord avec mon collègue brésilien, d'éviter que d'autres États ne soient entraînés dans la guerre au Proche-Orient et que le conflit ne s'étende géographiquement, ainsi que de préserver la fragile paix interconfessionnelle.
C'était le président russe Vladimir Poutine. Lors du sommet extraordinaire des BRICS, il s'est prononcé sur le conflit israélo-palestinien. Pour rappel, l'escalade des tensions dans la région s'est produite quelques semaines après l'annonce de l'élargissement des BRICS. Les derniers événements au Proche-Orient, qui ont éclaté le 7 octobre avec l'attaque des mouvements de la résistance palestinienne contre Israël, laissent perplexes la majorité des analystes quant à leur tenant et aboutissant à l'aune des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale. La crise au Proche-Orient intervient sur fond d'une situation internationale des plus tendues depuis la fin de la guerre froide en 1991. En effet, le 21 février 2023, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité la liant aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire New Start. Les trois raisons essentielles avancées par le chef de l'État russe justifiant sa décision sont 1. Les appels des élites politiques occidentales à infliger une défaite stratégique à la Russie. 2. L'implication de l'OTAN dans les tentatives ukrainiennes de frappe contre des bases de l'aviation stratégique russe où sont stockées des armes nucléaires. 3. La nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité, étant donné qu'ils sont membres de l'OTAN et bénéficient de facto du parapluie nucléaire américain. Dans cette optique, le président Poutine a non seulement décliné la demande occidentale d'inspecter les sites nucléaires russes intégrés dans l'accord New Start, il a même averti que la Russie reprendrait les essais nucléaires aussitôt qu'elle disposerait de preuves tangibles que les États-Unis en ont fait pareil. Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Tawfiq Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense. Général Tawfiq Didi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci beaucoup pour votre invitation sur la radio Sputnik Afrique et sur cette émission. Vraiment, je suis très heureux de participer un tout petit peu au débat actuel et de donner mon avis sur ce qui se passe sur la scène mondiale.
D'accord. Ben, tout le plaisir est pour nous, Général. Alors, ma première question, nous allons commencer par les enjeux géopolitiques et essayer de poser la question sur ce qui se passe un peu avant d'aller dans le vif des sujets sur ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, mais de dresser un peu le tableau et le topo général. Qui sont les forces qui tirent les ficelles et pèsent de tout leur poids sur l'évolution de la situation stratégique internationale?
La chute du mur de Berlin, c'est vraiment, à mon avis, l'événement majeur du XXe siècle. Mmh. Donc, que s'est-il passé? Après, les États-Unis, on est entré dans un monde unipolaire et les États-Unis ont eu la main libre pour donc devenir le policier et le gendarme du monde. Sauf que, malheureusement, les États-Unis et leurs alliés n'ont pas de morale. Donc, lorsque quelqu'un veut guider le monde, il faut qu'il soit juste. Et ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, il y a eu d'abord endiguement rampant de la Russie. Parce que, effectivement, à cette époque-là, les États-Unis d'Amérique savaient très bien que la Russie, tout ce qui reste de l'Union soviétique, est un pays quand même très fort. C'est un très grand pays avec des ressources naturelles extraordinaires. Et bien sûr, au départ, il y a eu Gorbatchev, il y a eu Eltsine, mais ce n'étaient pas des présidents qui pouvaient menacer l'Occident. L'arrivée de Poutine, Poutine qui est vraiment un fin stratège, un tacticien, et quelqu'un qui connaît tous les dossiers. Là, il y a eu un problème. Parce que là, les stratèges américains ont compris qu'il va y avoir un renouveau de la Russie, que ce pays risque, avec les moyens qu'il a, risque de redevenir une grande puissance, et c'était vraiment le cas. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, même s'ils ont donc trahi un peu leur promesse de ne pas avancer l'OTAN vers la Russie, eh ben, ils ont rampé doucement, vers la Russie, en essayant de l'encercler. Mm-hmm. Donc les pays de l'ancien pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN, et bien sûr, c'est devenu vraiment un grand danger pour la Russie. Sauf que Poutine, que moi je qualifie donc d'as de la politique, parce que vraiment, moi je le suis depuis très longtemps. Mm-hmm. L'Occident essaie un peu de le présenter comme un ogre, comme à mon sens, c'est tout à fait l'inverse. À mon sens, Poutine, c'est un patriote qui connaît très bien le dossier, malheureusement pour les États-Unis et leurs alliés, et qui connaît exactement leur jeu. Donc,
Par rapport à ça, c'est-à-dire quand on regarde justement, je suis d'accord avec vous qu'après l'Union le démembrement de l'Union soviétique, donc il y a eu les Occidentaux, à leur tête les Américains ont eu les mains libres sur la scène internationale. Donc parallèlement à leur politique, à leur géostratégie, à leur politique militaire, il y a eu aussi la promotion, soi-disant entre guillemets, de la mondialisation. La promotion du libéralisme et ainsi de suite. Et actuellement, quand on regarde l'endettement de ces pays, donc c'est l'objet de ma deuxième question, l'endettement lié à la crise de 1929 et donc, avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards de dollars. Cette crise donc, qui a provoqué une crise économique internationale, en réalité, cet endettement n'était qu'à 300% du PIB du pays en 33. Actuellement, en 2023, l'endettement total des États-Unis est de 400% du PIB, avec une dette globale de plus de 103 000 milliards de dollars. Alors, quand on compare les ordres de grandeur, parce qu'en réalité, je crois que vous serez d'accord avec moi que les Occidentaux, derrière leur politique d'endiguement de la Russie et de la Chine en particulier, mais leur politique de domination partout, ils essayent de sauver leur système économique qui est, quand on regarde ces chiffres, on comprend tout de suite qu'il est complètement en faillite. Alors, à comparer les ordres de grandeur entre les deux situations, on peut considérer que la crise de 1929 est dérisoire quant à la situation actuelle du monde. Alors, ma question, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ça le dessous des cartes de cette politique agressive? Et sommes-nous, dans ce cas, à la veille d'un cataclysme financier, économique, aux conséquences sur la sécurité qui pourrait déboucher vers un conflit généralisé?
Je suis totalement d'accord, mais il faut comprendre un tout petit peu la logique des Américains. Mmh. Y a pas que les Américains, d'ailleurs, les Français font de même. Le problème, c'est que cette dette n'avait aucun sens, parce que depuis 1971, donc depuis que Nixon avait libéré le dollar et qu'il n'avait plus de contrepartie en or, oui. Donc la Fed, elle imprimait des dollars à volonté, donc il n'y avait pas de problème. Parce que effectivement, même si le dollar n'avait pas de parité en or, les Américains, grâce à ce système, grâce à leur force économique et militaire, donc ils usurpaient toutes les richesses du monde. Mm-hmm. Donc ils pouvaient imprimer à volonté. Ce qui a changé maintenant, et qu'est-ce qui peut casser le dos des Américains, ce n'est pas uniquement la dette, mais c'est qu'il y a un nouveau joueur sur la scène mondiale. Et qui peut vraiment briser, donc casser le dollar et donc faire de telle sorte que cette dette colossale donc ait un sens. Je parle de la Chine, de la Russie et des BRICS. Mmh. S'il va y avoir maintenant une autre monnaie qui va donc rivaliser avec le dollar et qui peut détrôner le dollar, ce sera la catastrophe, le cataclysme. Vous pouvez donc donner tous les surnoms. Mais les Américains le savent très bien. Si cela arriverait, ce sera une hécatombe pour leur économie et pour l'économie mondiale. Donc là, le jeu est là maintenant, parce que cette dette colossale, donc vous savez qu'ils dépensent à volonté, ils dépensent de leur argent, ils leur donnent l'argent à l'Ukraine, vous savez, des dizaines de milliards, Israël.
Israël. Il y a justement une sénatrice qui, il y a quelques jours, qui a dit au Sénat américain que depuis 1948, les Américains ont dépensé plus de 3 000 milliards. 3 000 milliards en aide à Israël.
Oui.
Donc on
oui.
comprend pourquoi oui, ils ont envoyé leur porte-avions. Il s'agit de protéger leur investissement. En réalité, Israël, c'est un porte-avions aussi. C'est un porte-avions dans la politique globale, stratégique des Occidentaux et des Américains.
Oui, absolument. Donc les Américains, ils ont un pivot, ils ont implanté Israël donc au milieu du Moyen-Orient. C'est pas pour rien, c'est effectivement pour maintenir leur hégémonie sur la région, surtout que cette région du monde abrite les ressources naturelles, donc les hydrocarbures les plus importants du monde. Mmh. Et c'est pour cela que effectivement les Américains essaient de faire à la fois, ils n'ont plus le moyen, il faut être sûr, hein, ils n'ont plus le moyen financier et militaire pour à la fois donc aider l'Ukraine dans sa guerre, et vous savez que maintenant, on ne le cache pas, hein, l'OTAN est à genoux. Et moi, j'ai fait mes études en France, dans une école de guerre, je connais très très bien le dossier. L'OTAN est à genoux parce qu'il s'est mobilisé pour aider l'Ukraine. Il a donc fait venir toutes ses réserves donc, de munitions et d'armement à l'Ukraine, qui ont été tous cassés. On se rappelle très bien du fleuron de l'industrie allemande, le Léopard 2 qui s'est cassé la gueule devant les défenses russes, le César français. Donc tout cet effort de guerre donc investi en Ukraine, c'est finalement donc c'était pour rien. Mmh. Maintenant Israël est en guerre. Israël il y a vraiment un spectre de la disparition d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on peut entrer un peu dans.
Allez-y.
Ce qui s'est passé.
Allez-y.
Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça dépasse de très loin une attaque d'un commando du Hamas contre Israël. C'est que il y a eu des conséquences extraordinaires. La première. Il ne faut pas oublier que Israël est le pivot des États-Unis, des Occidentaux au Moyen-Orient, et que la doctrine même d'Israël, qui est inspirée de la doctrine américaine, qui est la dissuasion, est tombée. Mm-hmm. Et maintenant, il va leur falloir des dizaines d'années pour reconstruire donc l'idée que c'est une armée invincible, que c'est un pays très fort, que tous les pays arabes, limitrophes ne peuvent rien faire, mm-hmm. et que maintenant ils se sont cassés les dents contre quelques combattants. Là, les dégâts sont énormes. Ils ont tout fait pour liquider la question palestinienne. Donc, c'était vraiment, ils étaient à deux doigts d'y arriver, puisque les accords d'Abrams, ils ont donc, fait de telle sorte que les pays arabes les plus importants donc rejoignent Israël. Donc et que le spectre de la guerre s'éloigne. Je parle de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis. Donc c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé extraordinaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la question palestinienne revient au premier plan, mm-hmm. et que ce fantôme du pays fort et de l'armée invincible s'est cassé les dents. Donc maintenant, les Américains, ils ont peur. Ils ont peur que certains stratèges font ressembler un tout petit peu Israël à une toile d'araignée, et qu'un tout petit peu de vent peut les enlever de là.
D'accord.
Puisque la population israélienne...
Dans le sens de ce que vous avez développé, Général Didi, dans le sens... j'aimerais bien passer à la troisième question, et c'est dans le même contexte. Alors, en 1973, en réaction à l'aide occidentale à Israël, les pays de l'OPEP avaient quadruplé le prix du pétrole, du baril du pétrole, provoquant le premier choc pétrolier, ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Et bien que la guerre israélo-palestinienne a pesé sur la décision des pays de l'OPEP, dont à ce moment-là l'Algérie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, il est faux de la considérer comme la seule raison Et à ce titre, il y a lieu de rappeler que la fin de la convertibilité du dollar que vous avez cité tout à l'heure à juste titre, et en or, décidé par Richard Nixon le 15 août 71, avait déprécié la devise américaine, engendrant une perte sèche dont les revenus en devise forte des pays de l'OPEP. Donc c'était une réaction aussi des pays de l'OPEP, ce qui laisse penser qu'ils avaient pris cette décision aussi dans le but de retrouver leur pouvoir d'achat, au même que les grandes entreprises pétrolières occidentales, notamment américaines. Alors, il y a ici une question quand même cruciale pour beaucoup de pays dans le monde, notamment européens et africains. Que se passera-t-il si le même engrenage se met encore une fois en place dans le nouveau contexte géopolitique mondial accéléré depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine? Est-ce que cette perspective d'un nouveau choc pétrolier est possible? Et si elle a lieu, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait s'en suivre?
Donc, dans un monde en chaos, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on n'est pas dans un choc pétrolier, mais déjà, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation en Europe.
Oui.
Rien que les guerres, donc la guerre de l'Ukraine, Russie-Ukraine, on voit déjà un peu la résultante. Le prix du gaz a été multiplié par 10, le prix du pétrole par 3. Et vous savez très bien que un citoyen américain ou un citoyen européen ne peut pas supporter, il n'a pas l'habitude de supporter qu'on touche à son confort. Donc déjà, il y a un début de crise, sans aller jusqu'à donc au choc pétrolier. Déjà, ce qui s'est passé, donc alerte le pouvoir donc dans les pays européens et américains qu'ils ne peuvent pas aller donc continuellement vers cette logique-là et qu'il va faire donc le jeu sera là. Donc ils vont tout faire pour ne pas arriver là, parce que un nouveau choc pétrolier, ce sera vraiment catastrophique pour tout le monde. Et je vous rappelle, rien que la décision de Ben Salman donc, et de l'OPEP de ne pas augmenter, ce n'est pas d'augmenter les prix, mais de ne pas augmenter leur production.
Oui,
vous
oui.
avez vu la conséquence. Oui. Donc, l'affolement des prix de pétrole, on a frôlé les $100 par baril. Et vraiment, on est dans un moment charnière de l'histoire. Il y a un cataclysme, moi je l'appelle un cataclysme au niveau donc du jeu mondial. Donc aujourd'hui, c'est l'ordre mondial lui-même qui est en train de changer. Donc on est en train de passer donc d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire, et le jeu là maintenant, le craquement sera là. Qui va gagner?
D'accord. Alors, dans ce sens, général Didi, comment analysez-vous donc, par rapport à tout le contexte actuel que nous avons évoqué, économique, financier, géopolitique et stratégique, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement au Proche-Orient entre le Hamas et Israël? Et peut-on dire que la chute de l'Union soviétique n'a pas au fond changé grand-chose dans la gestion des affaires du monde, malgré l'écran de fumée appelé mondialisation et dont on espérait la paix et la prospérité? Et d'ailleurs, il y a un article du président Biden publié dans le Washington Post où il affirme que Poutine et Hamas espèrent porter atteinte à la stabilité et l'intégration régionale pour tirer profit des troubles qui en résulteront. Et le fait même de faire, selon lui, une telle analogie, donc il montre que tous les moyens sont bons, finalement, pour l'administration américaine, pour obtenir de l'argent pour Israël encore et peut-être aussi pour l'Ukraine. Il dit aussi que les États-Unis attribuent aux autres ce qu'il dit, c'est que les États-Unis attribuent aux autres exactement ce qu'ils font en réalité, parce qu'ils ont créé la crise en Ukraine en facilitant le coup d'État, ils donnent le feu vert à toutes les exactions terribles de l'armée israélienne, en plus de la fourniture d'armes et la présence de porte-avions et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous?
Ce qui est très visible, cher ami, c'est que l'Occident est en déclin. Ça, c'est une certitude. Et qu'ils essaient par tous les moyens, donc, de retarder donc, la chute, et qu'il y a de nouveaux joueurs dans le monde. Si on voit bien la carte, un peu, une carte du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la Russie est à part tous. Donc, elle est très, très, très proche. en Syrie, et que l'Iran a littéralement encerclé Israël. L'Iran, maintenant, se trouve où ? Avec donc le Hezbollah au sud du Liban, avec un armement extraordinaire, 200 000 missiles, 100 000 hommes, donc des missiles donc anti-char Hornet, un armement extraordinaire. Donc vers le nord, Israël est un peu, comment dire, il y a un spectre d'une grande attaque du nord. Ensuite, lorsqu'on voit la Syrie, il y a des bases militaires, à part la Russie, il y a des bases militaires iraniennes en Syrie. Et personne ne nie qu'il y a des accords, il y a donc une entraide entre la Russie et l'Iran. Si on voit un peu l'Irak, donc la plus grande partie maintenant de l'armée irakienne, qui est le Hashd populaire, est une armée chiite, armée par l'Iran, et qui est extrêmement forte. Un peu plus bas, le Yémen, les Houthis. Mm-hmm. Et vous savez ce qui s'est passé dans le Bab el-Mandeb. Il y a une journée, donc un risque de blocage de tout le commerce donc, qui vient du Sud et du Pacifique. Vous voyez très bien que la situation est vraiment chaotique. Et le fait saillant, c'est que les États-Unis d'Amérique et les Occidentaux n'ont plus les moyens d'agir comme avant. Ils n'ont plus les moyens.
Et dans ce cas, général Toufir Didi, le sabotage des gazoducs Nord Stream par Washington, parce qu'on le sait, c'est le président lui-même qui l'a dit, s'inscrit dans le sillage donc, de la stratégie géopolitique de fragmentation de l'Europe, évoquée par Zbigniew Brzezinski dans son livre de 1997, Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Et eurasienne aussi, et potentielle. Donc, pour ce qui concerne l'Europe, les Américains, ils ne veulent pas voir se mettre en place l'axe Paris-Berlin-Moscou. Et c'est la même stratégie qui se poursuit depuis des décennies. Alors, dans ce cas, général Didi, l'Union européenne est la dernière zone dans le monde où les États-Unis peuvent encore exercer leur hégémonie sans obstacle réel aujourd'hui. Et on le constate. D'ailleurs, on ne comprend même pas comment les Européens peuvent se suicider sur l'autel des intérêts américains. Mais est-ce que vous pensez que les Américains peuvent continuer à maintenir la pression sur la classe politique européenne malgré tout le désastre que cela provoque à l'intérieur de l'Europe ?
Entièrement d'accord. Le plus grand danger pour les Américains, c'était une possible alliance entre deux géants. La Russie, d'une part, l'Allemagne, de l'autre. L'Allemagne, avec son potentiel industriel, la recherche scientifique et son savoir-faire. La Russie, avec son armée donc très développée, avec ses ressources naturelles donc énormes, avec donc des réserves donc alimentaires, donc le blé, les céréales, etc., les huiles, etc. Donc une union possible entre l'Allemagne, la Russie, ce serait une catastrophe pour les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, et surtout que ces deux fameux gazoducs alimentaient l'Allemagne et ont ouvert une page de coopération entre les deux géants. Oui. Maintenant, les Américains, à mon avis, ils ont avancé leur pion, qui est l'Ukraine. Dans ce sens-là, ils ont tout fait pour déplacer le dernier pion vers la Russie, pour provoquer cela, pour arrêter, pour couper cet axe. Parce que moi, je ne considère pas la France comme une puissance. Hein. La France, moi, c'est redevenu un pays du tiers-monde. Ça, c'est une certitude. En 2005-2006, j'étais à l'école de guerre française et je peux vous affirmer que ce n'est plus une puissance. On ne peut plus parler de puissance. D'accord. Et ce qui s'est passé dans le Sahel, si vous voulez en parler tout à l'heure, ça explique bien cela. C'était l'axe Russie, donc Allemagne. D'accord. Mais maintenant, le problème, c'est que le citoyen européen s'est aperçu de la supercherie et qu'il ne veut plus voir cela. Et maintenant, les Européens, donc l'Européen moyen, comprend que son pays, ou l'Europe tout entière, l'Europe B27, ce n'est qu'un blotti qui est à la botte des États-Unis. Et que cela ne profite pas aux citoyens européens, qui ont maintenant des difficultés de ravitaillement, des difficultés alimentaires, tout le confort dans lequel vivaient les Européens est en train d'être dilapidé et de disparaître. Donc, jusqu'à quand l'opinion, maintenant la grande question, jusqu'à quand l'opinion publique européenne va supporter cela? Maintenant, il y a une scission qui se crée entre les peuplades européennes et leurs dirigeants. Les dirigeants, donc, sont toujours à la botte des Américains, mais on voit s'élever des voix, des révolutions à l'intérieur même, donc, des pays européens. Et je ne sais pas ce qui va se passer demain, parce que maintenant, toutes les voix s'élèvent pour arrêter cela. Les Américains vendent leur gaz 4 fois plus cher aux Européens que le gaz russe. Et cela a des conséquences. Les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Et moi, je vois à l'horizon se dessiner donc une révolution au sein des peuples de l'Europe, excepté bien sûr la Grande-Bretagne, que je considère comme le 51e État des États-Unis d'Amérique, mais le reste, ils ne vont pas supporter cela. L'Allemagne est riche, c'est sûr, mais leur richesse est en train de s'effriter. La France est au plus bas. Vous vous rappelez les Gilets jaunes? Vous vous rappelez? C'est pratiquement une révolte. Et c'est ce qui va se passer donc, pour tous les pays. Il y a des pays qui ont déjà fait tourner la veste. Je parle de la Hongrie. Donc, et les autres vont suivre. L'Espagne aujourd'hui, ils vont tous suivre parce que ça, c'est devenu dangereux pour leur population.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Taoufir Didi, pour la seconde partie de notre émission dans quelques minutes. Et pendant la pause, nous allons examiner avec Cyril Delattre, analyste géopolitique français, le récent article du président américain Joe Biden publié dans le Washington Post. À tout de suite. Ce 18 novembre, le président des États-Unis, Joe Biden, a publié une tribune dans le Washington Post sur les événements au Moyen-Orient. Cet article est truffé d'affirmations controversées et d'analogies douteuses. Pour dégager le sens de ce texte, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Cyril Delattre, analyste géopolitique français, actuellement PDG de Ulgis Aviation. Monsieur Cyril Delattre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Joe Biden affirme dans son article que Poutine et le Hamas espèrent porter atteinte à la stabilité et à l'intégration régionale et tirer profit des troubles qui en résulteront. Ne pensez-vous pas que les États-Unis essayent d'attribuer aux autres exactement ce qu'ils font eux-mêmes? À savoir, ils ont créé la crise en Ukraine en facilitant le coup d'État, ils donnent le feu vert à toutes les actions israéliennes. Ici, il s'agit de la fourniture d'armes et de l'envoi de groupes de porte-avions.
Ici, on est face à un problème qui est un problème récurrent avec les Américains. D'abord, je ne vois pas comment décemment on peut faire une analogie entre les opérations spéciales russes en Ukraine, connaissant l'implication démoniaque des Américains dans ce qui s'est passé, et l'attaque du Hamas contre les Israéliens et des civils israéliens. Décemment, je ne vois pas comment on peut faire. Mais les Américains, apparemment, sont capables de trouver le moyen de le faire pour mettre en avant leur politique extérieure et les buts qui sont recherchés par derrière. On sait qu'il y a quelques semaines, les États-Unis se sont trouvés face à un problème de financement, puisque suite à une guerre interne entre les républicains et les démocrates, le Sénat étant contrôlé par les démocrates et la Chambre des représentants avait adopté un budget qui prévoyait le financement des administrations fédérales jusqu'au 19 novembre, qui avait été voté à 355 voix pour et 91 voix contre, dans lequel il n'y avait aucune mesure demandée par la Maison Blanche pour l'Ukraine. Il fallait faire ça à l'arrache parce que sinon l'administration fédérale américaine se retrouverait sans financement. Et on sait aux États-Unis ce que ça veut dire, et ça, c'était pas possible. Ils sont jamais arrivés jusque-là. Effectivement, on a vu qu'ils n'y sont pas arrivés, mais il n'empêche que dans leur nouvelle demande, il y a de l'argent pour Israël, bien évidemment, et de l'argent pour l'Ukraine en même temps. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de fonds qui vont être alloués très probablement aux Ukrainiens par rapport à Israël. D'abord parce que l'Ukraine est un bourbier pour les Américains. Les Américains eux-mêmes en ont franchement ras-le-bol de voir autant d'argent déversé en Ukraine, autant d'armes et de munitions déversées en Ukraine qui, Dieu merci, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à prolonger l'agonie de ces pauvres Ukrainiens. Pour revenir sur la crise ukrainienne et le coup d'État qui a eu lieu, ce n'est plus un secret pour personne. Toute personne bien informée sait et connaît l'implication des États-Unis dans Maïdan. On sait que les deux coups d'État qui ont eu lieu pour la destitution de Yanukovych, qui d'une part a échoué et puis malheureusement a réussi après, plus Euromaïdan, ont coûté à peu près 6 milliards de dollars, ce qui est vraiment considérable. Donc oui, effectivement, les Américains ont une très grosse responsabilité dans la déstabilisation de l'Ukraine à l'époque, qui a été largement relayée après par les Européens. Mais ça, c'est pas un fait nouveau. Alors, en ce qui concerne l'action des États-Unis envers Israël et le fait qu'ils donnent le feu vert à toutes les actions israéliennes, il faut bien se rendre compte que l'attaque du Hamas du 7 octobre est une attaque qu'on peut considérer comme une attaque terroriste. Il y a d'ailleurs un jeu très intéressant une façon de jouer sur les mots très intéressante de la part de Benjamin Netanyahou concernant cette attaque, puisqu'il la compare aux attaques du 11 septembre, ce qui va faire résonner les mots des Américains et les pousser dans le même sens. D'un autre côté, ce qui est assez surprenant, c'est que la réponse israélienne, si elle a été longue à se mettre en place, puisqu'il s'est écoulé le 7 octobre environ 6 heures avant que les Israéliens réagissent, on n'entend aucune voix américaine dire aux Israéliens « vous y allez fort ». Non. On entend toutes les voix du monde entier Otano qui viennent aller contre la Russie en disant que les Russes sont des gros vilains, des gros méchants qui vont couler le sang partout. On n'entend jamais ces mêmes voix dire des Ukrainiens qu'ils exécutent des prisonniers. On n'entend jamais ces mêmes voix dire qu'il y a des mercenaires étrangers qui sont en Ukraine, qui opèrent pour le compte de l'Ukraine, notamment deux Français qui sont coupables de crimes de guerre. Non, ça, on n'en parle pas. Donc, on ne parle pas non plus de ce que peut faire Israël à Gaza, mais on met tout sur le dos du Hamas. Alors, évidemment, le Hamas n'est pas clair, mais on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures.
Monsieur Biden parle de la création de deux États, mais en même temps, il encourage l'expulsion et le génocide des Palestiniens. De quel type de solution à deux États pouvons-nous encore parler ?
La solution de la création à deux États est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est ancien. Ça n'a jamais été fait parce que les Israéliens n'ont jamais voulu que ce soit fait. En tout cas, certainement pas le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui lui représente quand même la partie la plus à droite de la droite du Likoud. Et surtout quand on connaît l'historique qui lie Ben Simon Netanyahou, donc le père de Benjamin Netanyahou et Jabotinsky, on peut comprendre aussi un petit peu pourquoi. Encourager l'expulsion des Palestiniens, oui, quelque part, parce que à partir du moment où on n'empêche pas Israël, et pourtant Israël, je suis le premier à le dire, est un État souverain qui a parfaitement le droit de se défendre, il est hors de question de leur retirer ça, mais à partir du moment où l'État d'Israël n'a jamais contribué à mettre en place un double État, c'est-à-dire un État israélien et un État palestinien, quand on voit la façon dont Israël mène les opérations militaires dans la bande de Gaza, Il n'y a pas d'autre choix, malheureusement, que de voir le peuple palestinien de la bande de Gaza essayer de fuir par là où ils peuvent fuir. Et je ne suis pas non plus convaincu que l'idée d'Israël soit d'empêcher les Palestiniens de fuir la bande de Gaza. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on regarde une carte d'Israël avec West Bank à droite et puis la bande de Gaza à gauche, si un État palestinien devait être créé dans lequel nous aurions la bande de Gaza et West Bank, il faut qu'on m'explique comment les populations de West Bank et comment les populations de Gaza puissent passer de l'un à l'autre sans passer par le territoire israélien. Ça, je ne vois pas comment ça peut être fait. Donc, mais ce que je vais dire n'engage vraiment que moi. Si un double État devait être fait, ce double État ne prendrait pas en compte la bande de Gaza. Je pense qu'il est dans l'objectif des Israéliens de récupérer ce territoire. Et si éventuellement après un État palestinien doit être créé, l'État palestinien sera cantonné à West Bank, mais certainement pas à Gaza. Maintenant, je dis ça, mais ça n'engage vraiment que moi. Vraiment que moi.
Le président américain note également que les États-Unis veulent continuer à diriger le monde. Les Américains ont en effet été les seuls à diriger pendant longtemps, après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais quel bilan peut-on tirer de leurs accomplissements ? Ont-ils vraiment réussi à résoudre les problèmes du monde ?
Les Américains se prennent pour les gardiens du monde libre. C'est comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a jamais changé. Quand on regarde tous les conflits qui ont éclaté à droite et à gauche depuis Ronald Reagan en allant jusqu'à Joe Biden aujourd'hui, le seul président américain qui n'a pas déclenché de guerre, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est Donald Trump. Les Américains ont toujours été mouillés dans tous les endroits où ils pouvaient être mouillés à ce niveau-là. On se souvient de la politique américaine en Amérique du Sud dans les années 80, au départ du Honduras à Tegucigalpa, avec John Negroponte, qui était l'ambassadeur américain de l'époque, qui était ce que moi j'appelle un disciple de Brzezinski. Brzezinski ayant été à la base de la doctrine anti-russe à l'époque où il était le conseiller de Jimmy Carter. D'ailleurs, si on fait une analogie, on peut regarder aujourd'hui qui est l'ambassadeur américain en Pologne. C'est ni plus ni moins que le fils de Brzezinski. Donc, comme les Américains fonctionnent par pattern, une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient, on peut voir ce que les Américains peuvent faire au départ de la Pologne. Les Américains tentent de justifier leur implication en Ukraine depuis la pseudo-invasion russe de l'année dernière, sachant que ils ont mis dans un coin la Russie, qui n'a eu d'autre choix que de rentrer en action pour non pas mener une guerre, mais en terminer avec ce problème. C'est comme ça. Les Américains ont fait la même chose en Afghanistan. Ils ont fait la même chose en Irak après le 11 septembre. Il fallait trouver tous les prétextes possibles pour pouvoir y aller. Et quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est ce qui a été fait. Bon, c'est la politique américaine. Elle est extrêmement dommageable. C'est comme ça depuis des décennies et ça va pas s'arrêter. Et malheureusement, plus on va en avant, compte tenu de l'émergence d'un monde multipolaire qu'on appelle les BRICS et du monde unipolaire qui est dirigé par les Américains et l'OTAN, j'ai malheureusement du mal à voir comment ça va s'arranger. La seule chose que je souhaite, effectivement, c'est que ce conflit au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas ne dégénère pas en un conflit un peu plus large là-bas. Sachant qu'il y avait une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et puis Israël, c'était un joli travail. Ce serait dommage que ça parte à l'eau, mais ça risque de partir à l'eau. Les Américains accusent les Iraniens de financer le Hamas. Bon, tout ça, les Iraniens adhérents aux BRICS, on peut imaginer pourquoi les Américains disent ça. Je ne vois pas ici une volonté de stabilisation, je vois plutôt une volonté de déstabiliser pour servir les propres intérêts américains, sachant que les États-Unis sont dans une situation où je serais tenté de dire que pour eux, c'est une fuite en avant, ils n'ont pas le choix. Donc ils feront tout ce qu'ils peuvent faire pour continuer leur politique, même s'il s'agit de déstabiliser et de faire des bains de sang un petit peu partout. Je les vois pas faire autrement. Enfin, ils ont toujours été comme ça.
C'était Cyril Delattre, analyste géopolitique français, actuellement PDG d'Euled Jis Aviation. Avec lui, nous avons décrypté l'article de Joe Biden sur le conflit israélo-palestinien. Général Toufir Didi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Un petit coucou à tous nos auditeurs africains, ce continent que je chéris beaucoup. Et j'espère qu'on va parler de l'Afrique en seconde partie,
bien
parce
sûr,
que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Bien sûr. Bien. Alors, pour continuer un peu à planter un peu le décor et continuer sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la question de Bab el-Mandeb et du Tarwa d'Ormuz et ainsi de suite. Alors, une question, Général Didi. Si jamais l'Iran est attaqué ou décide par lui-même de prendre part au conflit actuel, je crois que tous les observateurs savent qu'il ne manquerait pas de procéder à la fermeture du détroit d'Ormuz et même de Bab el-Mandeb en activant ses forces alliées au Yémen qui ont déjà tiré plusieurs missiles en direction d'Israël en guise d'avertissement et pris donc hier un bateau israélien en otage. Il va sans rappeler qu'au moins 20% du commerce du pétrole et une grande partie du commerce mondial transitent par ces deux goulets d'étranglement. À cela s'ajoutent l'Arabie Saoudite et la Russie qui usent de l'arme du pétrole depuis plusieurs mois et entendent de poursuivre en réduisant leur production d'ici la fin de l'année. Alors, si ce scénario, Général Didi, se réalise, comment vont évoluer les choses? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est possible? Et comment vont évoluer les choses si jamais il advenait?
Effectivement, Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, c'est vraiment un système de mise à feu pour une guerre totale, une guerre dans la région. Et, comme je vous disais tout à l'heure, les États-Unis ne sont pas prêts pour cela. Donc, ils ont dépêché leurs deux porte-avions uniquement pour un peu calmer le jeu et ne pas faire de telle sorte que les Libanais n'entrent pas en guerre, que les autres pions iraniens ne bougent pas. Effectivement, les gens qui ont compris que c'était pour Israël, mais moi je l'ai compris comme plutôt essayer de ne pas que les choses ne dégénèrent pas et que ça se transforme en guerre totale, parce que, je l'ai dit, les Américains n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, ils ont perdu la guerre en Afghanistan et c'est quelque chose d'énorme contre des rebelles qui ont un pied par moment donc léger, et maintenant ils ne peuvent plus supporter un autre coup, et surtout lorsqu'on parle d'une puissance comme l'Iran qui n'a fait que pendant ces 10 ans développer ses vecteurs. Ils ont des missiles balistiques de très grande portée avec des précisions énormes, ils ont développé leur armement et maintenant
et même des missiles hypersoniques actuellement.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis il y a une petite question, Général Didi, par rapport à ce que vous avez dit maintenant. On sait qu'un groupement porte-avions, un porte-avions, c'est à peu près 75 avions. C'est tout. Oui. Donc les deux groupes porte-avions qui sont en face de Gaza ou dans la Méditerranée orientale. Donc, c'est 150 avions. Donc, normalement, moi qui ne suis pas militaire, je comprends que C'est juste, c'est exactement ce que vous disiez, parce qu'on ne peut pas faire la guerre à l'Iran avec 150 avions. C'est délirant, ce n'est pas possible ça.
Absolument, je vous ai dit que c'était juste pour calmer un peu calmer le jeu et empêcher les autres pions de bouger, tout simplement. Mais l'Iran, ils ont à leur tête des stratèges, ils ont des gens qui savent comment faire, quand est-ce qu'il faut bouger, quand est-ce qu'il faut arrêter le jeu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cet axe, c'est un nouvel axe, Russie-Iran est en train de gagner la partie. Tout simplement parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, tout ce qui s'est passé est en faveur de l'Iran et de la Russie. Parce que les Américains, ils ont démontré encore une fois qu'ils ont des limites. Et que vous allez voir, et moi je vous le dis dès maintenant, que Biden va faire de tout son possible pour arrêter la guerre à Gaza. Et qu'il a donné un feu vert donc à Netanyahou de poursuivre la guerre pendant 15 jours. Et qu'après, il va faire de telle sorte que tout cela s'arrête.
D'accord. Bien. Alors, une dernière question avant de passer à l'Afrique, sur la Palestine. Donc, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a récemment déclaré avoir creusé 500 kilomètres de tunnels sous la bande de Gaza, et couvrant une superficie d'environ 360 kilomètres carrés, soit environ deux fois la taille de Washington DC, la capitale des États-Unis. Et à ce jour, le Hamas a survécu aux bombardements, aux frappes aériennes et aux incursions terrestres majeures de Tsahal. Et par conséquent, grâce donc à des années d'expérience, ils ont tout fait pour garantir que la structure de commandement, les effectifs, les dépôts de munitions, certainement utilisés pour frapper Israël à partir de points de tir cachés, puissent survivre aux invasions, à l'artillerie, aux frappes aériennes. Donc, moi, ce qui attire mon attention dans tout ça, c'est que avec ces tunnels, en fait, les Palestiniens ont réussi. Enfin, c'est des techniques qui ont été utilisées même durant la Seconde Guerre mondiale, même bien avant. Mais c'est que le fait d'avoir creusé des tunnels a mis hors jeu tous les moyens technologiques de surveillance, de contrôle, les satellites, tout ça est hors jeu à cause de ça. Alors, à votre avis, vu la poursuite des bombardements, peut-on dire qu'Israël ne se fait aucune illusion sur les dangers auxquels il s'expose en essayant de s'emparer des tunnels de Hamas ? Est-ce qu'Israël a déjà perdu la guerre ?
Moi, je veux parler en tant qu'expert militaire.
Oui, allez-y.
Ce problème-là. Moi, ce que je vois, moi, j'ai été très longtemps commandant d'une grande unité, ce que je suis en train de voir, personne n'en parle. On parle effectivement de l'armement. Moi, je vois deux armées. Une armée classique, l'armée israélienne, et une guérilla, donc qui est le Qassem, donc le Hamas. Ce que je vois, c'est que d'un côté, je vois une armée qui a perdu son âme. C'est-à-dire que l'armée israélienne, ça fait des années qu'ils combattent des enfants qui leur lancent des cailloux. Donc, c'est une armée qui n'est plus entraîné. C'est une armée qui est devenue en quelque sorte une police ou une aide à la police. Donc ce n'est plus une véritable armée. Parce qu'une armée, c'est une armée qui s'entraîne, c'est une armée qui coordonne ses actions, c'est une armée qui sait ce qu'elle fait. Ce qui s'est passé le 7 démontre bien ce que je dis. Lorsque des guérilleros attaquent 4 casernes et donc prennent tous les documents et prennent des otages, vous savez qu'une caserne, c'est une forteresse. Mm-hmm. Le fait que quelques individus puissent attaquer une caserne et donc prendre des otages, c'est un scandale. Donc d'un côté, une armée qui n'a maintenant comme atout que de la technologie, des avions de combat, des chars, des VTT, mais à l'intérieur, il y a des soldats qui ne sont plus entraînés, qui n'ont plus d'armes, qui n'ont plus de convictions pour combattre. Maintenant, je vois d'autre côté, le Hamas a fait, ça fait 4 ans qu'ils s'entraînent. Ça fait 4 ans qu'ils se préparent en creusant des tunnels, en faisant des stocks d'armement, en faisant des stocks de nourriture, de médicaments. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés. Maintenant, la résultante, c'est quoi ? D'un côté, des centaines de morts, de l'autre côté, un mort. Vous savez que jusque-là, il y a eu donc un seul mort du côté du Hamas. Je parle des soldats du Hamas.
Des soldats, oui.
Donc là, c'est flagrant. Et moi, je vois que c'est une guerre sans issue et que finalement, Israël va se retirer. Parce qu'ils s'ils vont s'installer là, ils vont payer le prix fort. Maintenant, le combat, c'est d'homme à homme. Et vous voyez que depuis 2-3 jours, il tombe par dizaines. Parce qu'avant, ils étaient à l'intérieur de leur char, de leur VTT, et qu'ils avaient une certaine protection.
D'accord. Pour finir, donc une dernière question. J'aimerais bien qu'on consacre les 5 minutes qui restent à ça. C'est l'Afrique. Alors, ma question directement, Général Didi, dans le cadre des changements mondiaux actuels, que risquent les pays d'Afrique en termes économiques et sécuritaires? Comment analysez-vous l'évolution de la situation au Sahel, allant de ce qui se passe actuellement donc en Ukraine, en Palestine et dans le monde? Et quelle stratégie les pays africains pourraient mettre sur pied individuellement ou même collectivement pour y faire face?
Bon, maintenant, il y a en Afrique, mon cher continent, 54 pays. À mon avis, l'Afrique est toujours colonisée. C'est une certitude que même si les colons sont partis, et aujourd'hui on assiste à un nouveau type de colonisation. C'est pour maintenir effectivement l'Afrique dans un état de pauvreté et d'inconscience surtout. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils puisent les ressources naturelles donc de l'Afrique et ils leur renvoient sous forme de produits finis, avec une très grande plus-value. Ils font de telle sorte que le niveau éducatif en Afrique reste très bas. Vous savez que tous les lauréats des pays africains partent vers l'Europe ou partent vers le Canada et les États-Unis. Donc on prive cette Afrique de tous les cerveaux, de toutes les capacités, de toutes les compétences, effectivement pour les maintenir dans un état donc lamentable. Certains pays, même leur monnaie, je parle du franc CFA,
oui,
ne sont pas en faveur de ces pays-là. Kadhafi a été éliminé le jour où il a décidé, donc où il a parlé de monnaie unique pour l'Afrique. Il n'y a que la République sud-africaine qui a pu échapper, qui a pu effectivement échapper à tout cela. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a un réveil. Donc, peut-être le plus grand profit de cette mondialisation des réseaux sociaux, c'est que maintenant, l'Afrique se réveille. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sahel, que l'armée française a été chassée, que certains pays ont commencé à construire donc leur souveraineté. Je parle de mon pays. Qaïs Saïd, notre président, s'est aperçu de la supercherie et il a, depuis 2 ans, on est en train de construire notre souveraineté. On n'est plus donc sous la coupe donc du FMI ou de la France ou des États-Unis, mais à mon avis, les Africains doivent maintenant partir sur de nouvelles bases. Parce que moi, le meilleur exemple pour moi et pour l'Afrique, c'est la Corée du Sud en 63. La Corée du Sud en 63 était plus fort. Le PIB était à 80 dollars, quelque chose que vraiment, c'est un pays très pauvre. Et ils étaient accompagnés par les Américains et la Corée du Sud est devenue une puissance économique mondiale. C'est
et
le cas
militaire
pour les pays africains s'ils veulent vraiment décoller. Et c'est très facile. Il suffit tout simplement de construire une stratégie à long terme et qui est basée sur l'éducation. C'est le cas de la Tunisie en 56, où Bourguiba avait consacré les 2/3 du budget pour l'éducation des enfants et l'école, bien sûr, et que, c'est-à-dire faire de telle sorte à maintenir leurs compétences et leur cerveau chez eux, et bien sûr une stratégie de limitation des naissances. On ne peut pas continuer avec 8 enfants par femme, ça c'est pas possible, ça n'engendrerait qu'un exode et plus de pauvreté, et que ces dirigeants donc soient capables de se baser sur le patriotisme et sur la citoyenneté, sur l'éducation, pour décoller. Et ce n'est pas surtout que les pays africains ont des ressources naturelles donc extraordinaires. Vous savez que l'uranium est vendu pour la France au 1/100 de son prix. C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les peuples africains se prennent en charge, qu'ils mettent à leur tête des gens compétents et qui ne sont pas corrompus ou à la botte des puissances occidentales, et partir de nouveau. Ce n'est pas difficile à faire.
D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Taoufik Didi, ça a été un immense plaisir. Je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci, cher ami. Remerciements à tous les étoiles africains, à tous nos chers Africains. Et Inch'Allah pour de meilleurs jours pour tout le monde.
Merci beaucoup. C'était le général Taoufik Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.